Livre 3. À Callao, Raymond, en attendant que l'heure fût venue d'aller retrouver Marie-Thérèse, remontait mélancoliquement la Calle de Lima. Il venait de la Dársena et se remémorait les tristes propos que lui avaient tenus les ingénieurs du port. Ces messieurs des ponts et chaussées ne lui avaient point caché que, dans l'état politique du pays, il ne lui serait point facile de tenter quoi que ce fût avant longtemps du côté des antiques mines d'or abandonnées de Cusco. Depuis 2 jours, on se battait là-bas, à l'autre bout du Pérou, où l'on faisait semblant de se battre. Enfin, on brûlait de la poudre. Le prétendant Garcia, que l'on croyait tranquillement en train de festoyer à Arequipa, avait réussi à jeter une partie de ses troupes sur le dos des forces républicaines entre Sicuani et l'Ayacucho. Aux dernières nouvelles, même le bruit courait que le Cuzco était tombé en son pouvoir. Si le fait était exact, la paix n'était point près de se faire entre les belligérants qui allaient s'arracher le Pérou morceau par morceau. Et la situation du président Ventimiglia se trouvait du coup fort ébranlée. Or, Ventimiglia, sur l'intervention du marquis de la Torre et les démarches diplomatiques de la Société française des mines, qui devait fournir les fonds nécessaires, avait accordé fort aimablement à Raymond Auzou la licence dont il avait besoin pour mener à bien ses travaux, ou tout au moins pour expérimenter son nouveau siphon. Qu'allait valoir cette licence après la victoire de Garcia? Actif, aimant les affaires au moins autant que Marie-Thérèse, Raymond se désolait à l'idée qu'il lui faudrait sans doute attendre de longs mois, les bras croisés, l'issue d'une révolution qui en était encore à son aurore. Arrivé dans la Calle de Lima, il regarda l'heure à sa montre et constata qu'il pouvait encore disposer de quelques instants avant d'aller rejoindre Marie-Thérèse. Il ne voulait point la déranger dans ses comptes, et il savait qu'elle n'y tenait point non plus. Tous deux s'aimaient de tout leur cœur, mais les affaires étaient les affaires. Il entra pour lire les journaux au Círculo de los Amigos de las Artes, qui était une sorte de café où la lecture des principales publications du vieux et du nouveau monde était offerte gratuitement aux consommateurs. Dans le moment, la vaste salle du rez-de-chaussée était pleine de clients. Il y avait de bruyantes discussions autour des nouvelles de la dernière heure. On ne parlait que du Cusco. Le nom de l'ex-première capitale du Pérou était dans toutes les bouches, et de notables citoyens de Callao, qui avaient été jusque-là de farouches partisans de Ventimiglia, commençaient à trouver à Garcia quelques vertus. Quand une feuille officielle fut criée dans la rue par les gamins échevelés et essoufflés dont on s'arrachait la volante marchandise. Un amigo de los amigos de las artes, un ami des arts, monta sur une table, le journal à la main, et lut une proclamation du président de la République, conseillant le calme et démentant catégoriquement la prise de Cusco par les insurgés. De plus, Ventimiglia annonçait que le général Garcia était enfermé avec ses troupes dans Arequipa, que tous les défilés de la Sierra étaient aux mains des républicains et que le traître allait être incessamment jeté à la mer ou repoussé dans les déserts de sable du Chili. La notice officielle se terminait par une objurgation relative aux Indiens Quichua et attribuait au fait de l'Interahamwe l'importance exceptionnelle de quelques troubles populaires dans les faubourgs. Ces fêtes allaient suivre leur cours normal et la classe indienne retomberait à son apathie bien connue. C'est alors que Ventimiglia promettait de frapper le dernier coup qui débarrasserait pour toujours le pays de Garcia et de ses partisans. Les amigos de las Artes, à la suite de cette lecture, poussèrent des acclamations chaleureuses en l'honneur du président. Chacun se retrouva l'ami de Ventimiglia. On jugeait sa proclamation magnifique. Es verda veramente magnifico. Es cosa inaudita. Dios mio, mucho me alegro. Raymond sortit de l'établissement un peu consolé, bien qu'il n'attachât qu'une importance relative aux démentis officiels de la feuille du soir. Il se dirigea en hâte vers l'établissement de la Haute-Ville, car le soir était tombé tout à coup et il craignait maintenant d'être en retard. Il pénétra dans le petit dédale des ruelles qu'il avait parcouru avec tant d'émotion à son arrivée au Pérou, ruelles qu'il connaissait déjà alors sans les avoir jamais vues, tant étaient présentes à sa mémoire les descriptions précises qu'en avait faites Marie-Thérèse dans ses lettres à sa sœur Jeanne. Il aperçut de loin la lumière à la fenêtre en véranda et il vit que cette fenêtre était ouverte comme au premier jour. « Elle m'attend !» se dit-il, et son cœur amoureux battit plus fort. Il fit quelques pas et avança la tête. C'est ainsi qu'il avait fait la première fois, c'est ainsi qu'il l'avait vu pencher sur ses gros registres vert à un coin de cuivre et prenant les notes sur un carnet, alignant des chiffres, cependant que sa voix claire et nette, sa voix bien décidée, de bonne petite commerçante qui connaît bien son affaire, lançait à un interlocuteur qu'il n'apercevait pas. « Eh, mon cher monsieur, c'est comme vous voudrez, mais à ce prix-là, vous ne pouvez avoir que de la guano phosphatée qui n'aura plus que 4% d'azote et encore. » Oh, il avait toujours la phrase dans l'oreille. Elle ne l'avait pas fait sourire. Elle l'avait rendu plus amoureux, si possible, tant il aimait le côté sérieux, pratique, même commercial, chez la femme, surtout chez la jeune fille, après avoir eu la haine de toutes les petites évaporées qu'il avait rencontrées dans les salons et dans les casinos autour de sa sœur. C'était un brave et honnête fils de bourgeois qui n'était peut-être pas devenu amoureux tout à fait de la Péruvienne qu'en apprenant qu'elle était capable de mener une maison de commerce. En tout cas, cela l'avait transporté d'allégresse et avait vaincu sa timidité. C'est alors que sa sœur Jeanne avait reçu ses premières confidences. « Elle est jolie, » avait dit Jeanne. « Elle a un cerveau d'homme, » avait-il répondu. Et cependant, à eux deux, avec leurs deux cerveaux d'hommes, comment avaient-ils pu, à un moment donné, être impressionnés comme des femmes, oh, comme de vieilles bonnes femmes, tremblantes et inquiètes, par une histoire, mais quelle histoire tout de même que celle du bracelet Soleil d'Or. De cela, ils riraient longtemps, longtemps quand ils seraient mariés, quand ils pourraient dire « ma femme, à l'épouse du soleil ». « Bonsoir, Marie-Thérèse. » Pas de réponse. Raymond va à la fenêtre. « Bonsoir, Marie-Thérèse. » Où l'on retrouve le bon Natividad. Raymond sort dans la cour déserte, puis se précipite à nouveau dans le bureau. Il n'y retrouve que la sinistre certitude de son malheur. Tout ici prouve qu'il y a une lutte, violence, rapte. Les meubles qui ont roulé dans les coins, le rideau de la fenêtre arraché, un carreau brisé. Ce n'est plus un cri d'appel qui sort de la bouche désespérée du jeune homme. C'est un rauque gémissement. Ce sont des pleurs, ce sont des sanglots. Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, on la lui a volée. Il ne doute plus que les Indiens ne l'aient emporté comme une proie. Les Indiens de ce Huascar en qui elle avait placé une confiance enfantine et qu'il aimait non comme un frère mais comme un admirateur. Ah, Raymond a vu les yeux de Huascar quand Huascar regardait Marie-Thérèse. Et un homme, surtout un homme qui aime Marie-Thérèse, ne saurait se tromper sur un regard pareil. Raymond a le temps, est à la fenêtre. Il interroge la nuit, ses ténèbres, ce silence. Et il appelle encore « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse !» Mais encore rien, ni personne ne lui répond. Et le voilà maintenant qui cherche en vain un indice, une trace, permettant de voler utilement au secours de sa fiancée. Mais comment les misérables ont-ils pu oser un pareil crime? Il voit la malheureuse se débattant dans les bras de Huascar et l'appelant lui Raymond, pendant qu'il restait tranquillement à se promener sur les quais de la Larsena ou à écouter les propos insensés des amigos de la Sartes. Mais que n'a-t-il accouru plus tôt? Il aurait surpris Huascar. Ah, c'est de celui-là qu'il fallait se méfier. C'est celui-là qu'il fallait craindre et surveiller pendant qu'ils étaient hypnotisés par cette ridicule histoire du bracelet soleil d'or et qu'ils se faisaient répéter comme des enfants toutes les légendes stupides des épouses du soleil. Un Indien qui aime une blanche et qui désire se venger, cela, ce n'est pas du rêve. Il se le représentait encore, ce Huascar, la première fois qu'il lui avait été donné à lui, Raymond, de pénétrer dans cette pièce. Il le voyait encore dans ce coin, orgueilleusement drapé dans son ponche, et devant un point de menace avant de disparaître, quand Marie-Thérèse l'avait chassé, lui et les siens. Images éclatantes, brûlantes, vacillantes, dans son cerveau en délire. Ah, se recueillir, raisonner, penser, savoir. D'un bond, il est retombé dans la rue noire qui éclaire à peine là-bas au coin du carrefour cette lanterne au bout d'une corde. Il n'y a là que des portes de magasins, des murs aux visages fermés, des trous d'ombre. Ah ! Au tournant de la rue, des éclats de voix. Il se rappelle un cabaret, la seule chose vivante dans ce quartier mort. Il y court, la porte en est ouverte. Il entre et il saute sur un homme, le garde-magasin, Domingo, qui se retourne effaré. « Où est ta maîtresse ?» Domingo semble ne pas comprendre, répond craintivement qu'il croyait la señorita retourner à Lima avec Raymond comme tous les soirs, car il a vu passer tout à l'heure l'automobile. Quelle automobile ? Quelle automobile ? Domingo hausse les épaules. Il n'y en a pas tant à Callao et à Lima d'automobile. Et qui la conduisait ? Le boy ? Libertad ? Si, señor, oui, Libertad. Et il ne t'a rien dit en passant ? Bon, il ne m'a pas vu. Et ta maîtresse, tu l'as vue ? La bâche était relevée, oh, j'ai eu le temps de rien voir distinctement. La voiture allait si vite, c'est toute la vérité. Juro que la verdad. Et Domingo leva la main en l'air, attestant sa divinité. Raymond le secoua comme un prunier. « Mais qu'est-ce que tu faisais ici? Pourquoi n'étais-tu pas près de ta maîtresse à ton poste ?»« Ben, Quichua, ben, emmené boire un petit verre de pisco, du vrai pisco, señor. » Raymond le poussait déjà devant lui, le jetait dans la rue, le faisait entrer dans le bureau ravagé. « Es horroroso, horroroso !» Et Domingo fut prêt à s'arracher les cheveux, mais Raymond le saisit à la gorge et tâcha à voir clair dans ses yeux qui sortaient des orbites, prêts à jaillir des paupières comme des noyaux de la pulpe d'une cerise. Stupide ou traître, imbécile ou complice ? Raymond n'acheva point de l'étouffer. Il avait besoin encore de quelques renseignements précis qu'il comptait bien obtenir après cette démonstration de sa force. Il les eut tout de suite. On ne pouvait douter que le coup eût été monté avec la complicité active du boy, un infâme métis Libertad, que Marie-Thérèse avait recueilli par pitié et aussi à cause de son intelligence, et qu'elle avait réservé pour le service de l'auto. L'heure et le jour du rapt avaient été bien choisis. Le soir du samedi, il n'y avait plus personne dans les magasins. Mais quand tu es parti boire avec ton quichua, l'auto était déjà là ? demanda Raymond. Si, seigneur, depuis une demi-heure. Et la capote était déjà relevée? Non, Libertad attendait seule sur le siège, comme toujours. Raymond, abandonnant Domingo, était déjà loin, dégringolant vers la Dársena par le seul chemin que put prendre la voiture. Le fait que le rapt avait été accompli dans l'automobile de Marie-Thérèse facilitait singulièrement la poursuite de Raymond. D'abord, l'auto ne pouvait aller bien loin à cause du manque de route praticable. Ensuite, on pouvait retrouver sa piste immédiatement. Courant toujours, il se heurta sous un réverbère à une ombre qui sortait d'un porche avec certaines précautions et qui se montra de fort méchante humeur d'avoir été ainsi bousculé. À la frisure des cheveux, à la jeunesse égayée de cette tête poupine, Raymond reconnut l'homme qui lui était apparu lors de son arrivée à Callao, à une fenêtre de ce quartier entre deux pots de fleurs. L'ami de Jenny l'ouvrière, le maître de police. Il poussa une telle exclamation et se jeta sur lui avec tant d'ardeur que l'autre recula épouvanté. « Qui est là ?»« Excusez-moi, seigneur l'inspecteur supérieur. Je suis Raymond Ozu, le fiancé de la señorita de la Torre. Des bandits viennent d'enlever la señorita. » « Que dites-vous? Est-ce possible? La señorita Marie-Thérèse ?» Hâtivement, en quelques mots, Raymond mit le commissaire au courant du drame, en accusant catégoriquement les Indiens et Huascar. Le magistrat était désespéré d'une pareille aventure qui venait le trouver au moment où il se disposait à aller quérir le souper de Jenny. Mais c'était un brave homme et un homme brave, qui avait conscience de son devoir. Il allait se mettre immédiatement à la disposition de Raymond. Cependant, il lui demandait la permission de remonter un instant auprès de sa petite amie pour la prévenir de ce fâcheux contretemps. L'ingénieur, outré, ne lui répondit même pas et continua sa route vers le port, interrogeant les petits commerçants sur le bas de leurs portes et ne négligeant aucun renseignement sur le passage de l'auto. En somme, la voiture n'avait pas plus d'une demi-heure d'avance. Raymond était persuadé qu'il ne reverrait plus le commissaire. En quoi il se trompait? Car il entendit courir derrière lui et reconnut son homme. « Vous ne m'attendiez plus, seigneur. Eh bien, me voilà. On peut toujours compter sur Natividad. » Il s'appelait Pérez, mais sa tête charmante d'enfant Jésus lui avait fait donner à Callao le sobriquet de Natividad, Noël. Et il était le premier à s'en amuser, car il accomplissait sa difficile besogne avec une rare bonne humeur. Cependant, Natividad avait sa bête noire, l'Indien. Il avait horreur des indigènes quichois, les trouvant sournois, paresseux, sales, et capable des plus méchantes entreprises pour peu que quelqu'un d'intelligent les y poussât. Le coup qu'il venait de faire ne l'étonnait pas outre mesure. Un peu avant d'arriver sur le port, comme les deux hommes débouchaient dans la petite cahier de San Lorenzo, Natividad arrêta Raymond et le colla contre la muraille. Ce quartier était lointain et désert. Il n'y avait d'autre lueur pour éclairer les tristes ténèbres de la rue étroite que celle qui apparaissait derrière les vitres d'une porte basse à quelques pas de là. Or, cette porte basse venait de s'ouvrir et une tête était apparue qui regardait dans la rue avec précaution. Raymond faillit crier de joie. Il venait de reconnaître Huascar. L'Indien siffla, et aussitôt deux ombres montèrent du bas de la calle, semblant se détacher des murs. Les nouveaux venus étaient coiffés de larges chapeaux indiens. Ils glissèrent jusqu'à la hauteur de Huascar, qui maintenant se trouvait dans la rue après avoir refermé la porte derrière lui. Une rapide conversation s'engagea entre les trois individus à voix basse, en indien Aymara, puis les deux ombres redescendirent vers le port. Huascar rentra dans la maison à la vitre éclairée, et la caille retomba à une paix parfaite. Natividad, pendant tout ce temps, n'avait cessé de serrer la main de Raymond, geste qui commandait l'immobilité. Le jeune homme tremblait d'impatience. « Mais qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? Avez-vous compris ce qu'ils se sont dit ? Marie-Thérèse est peut-être enfermée là, avec ce misérable. » Natividad ne répondit point, mais se glissa jusqu'à la porte basse et, au risque d'être découvert, regarda à travers les vitres. Raymond aussitôt le rejoignit. Il pouvait voir distinctement, dans l'endroit où il se trouvait, une salle pleine d'Indiens assis à des tables où ils ne buvaient ni ne fumaient, observant tous un étrange et impressionnant silence. Huascar se promenait au milieu d'eux, arpentant toute la pièce et paraissant plongé dans les plus sombres pensées. Un moment, il disparut par une porte qui ouvrait sur un escalier, lequel devait faire communiquer le rez-de-chaussée avec le premier étage. Natividad parut en avoir assez vu. Peut-être craignait-il d'être découvert. Il entraîna Raymond sous un porche. « Je le sais, dit-il, et je ne puis comprendre ce que font ces Indiens ici en pleine fête de l'Interaimi. Que signifie cette réunion ? La plupart des Quichuas de Caléao sont partis pour la montagne, et on les reverra guère avant une dizaine de jours. » En tout cas, il n'est guère raisonnable de penser que Huascar puisse être l'auteur du rapt. Quand on veut enlever une noble péruvienne, il n'est pas nécessaire de s'y mettre à 30 et de confier son secret à tous les Indiens du Pérou qui viendront me la vendre pour quelques centavos. Attendons, dit Raymond, nous retrouverons toujours bien l'auto, mais vide sans doute. Mais mon idée est que Huascar est au courant de l'enlèvement de Marie-Thérèse, s'il en est l'auteur. Ne le perdons pas de vue. « Oh, nous n'attendrons pas longtemps, » dit le commissaire en dressant l'oreille au bruit qui venait du fond de la caille. « Voilà les Indiens qui reviennent avec les bêtes, et me voilà, moi, bien intrigué. »« Ah, ça m'est, à propos de l'Interaimi, est-ce que... Oh, oh, silence !» Le bruit des sabots de toute une petite cavalerie retentissait maintenant sur les pavés pointus de la caille et se rapprochait rapidement. Le commissaire et Raymond durent reculer encore et se dissimuler dans une petite ruelle qui venait couper à angle droit la caille de San Lorenzo, et d'où ils pouvaient voir tout ce qui se passait aux environs de la porte basse derrière laquelle était réunie la troupe de Huascar. Au bruit des montures, cette porte s'ouvrit encore et l'on aperçut tous les Indiens debout dans la salle et semblant attendre quelqu'un, car tous les visages inclinés étaient tournés vers la porte du fond. Ce fut d'abord Huascar qui apparut, puis un Indien que Raymond reconnut immédiatement pour l'avoir entendu psalmodier la terrible aventure d'Ahualpa sur la pierre du martyr à Cajabarca. Puis ce fut un jeune homme vêtu à l'européenne d'un parfait complet veston de chez Zulat, Oviedo de Huayanac Runtu lui-même. Or, événement incroyable, tous ces gens qui n'avaient pas bronché en face de Huascar et du prêtre de Cajabarca mirent genoux en terre au passage de Huayanac Runtu devant l'employé de la banque franco-belge et courbèrent le front, les mains écartées en avant dans la manifestation du plus profond respect. À ce moment, toute la troupe des chevaux et des mules était arrivée à la hauteur de la porte basse. Alors des serviteurs sortirent dans la caille avec des lanternes et éclairèrent la cavalcade. Le commis de la banque franco-belge fut le premier à se mettre en selle, aidé par Huascar qui lui tenait humblement l'étrier. Puis Huascar sauta à son tour sur sa bête, puis le prêtre de Cajamarca. Ils se placèrent de chaque côté de Yuyaynacuntu un peu en arrière. C'est alors que se produisit, sur un signe de Huascar qui s'était retourné, un incident singulier qui éclaira terriblement la situation aux yeux de Natividad. En se mettant en selle, tous les Indiens de la suite retournèrent leurs ponches et montrèrent aux lueurs des lanternes et des torches un punch rouge. « Les poches rouges ! Les poches rouges !» fit d'une voix étouffée Natividad en saisissant le bras de Raymond. Il y eut une sorte de sifflement qui venait du bas de la cahier et auquel répondit un autre lointain sifflement tout là-bas, à l'extrémité du quai de la Darsena, et la troupe s'ébranla. Raymond voulut la suivre, mais le commissaire le retint. « Écoutez, écoutez !» Il faut savoir de quel côté il se dirige. Sur la piste des Punchos Rouges. Et il tendit l'oreille. Quand il se releva, il était fixé. Ils prennent la route de Corillos, où je me trompe fort, où je parierais bien qu'ils vont rejoindre l'auto. À cheval, gémissait Raymond. Nous pouvons rester ici. Suivez-moi, nous avons mieux qu'un cheval. « Nous avons le téléphone et le chemin de fer !» fit Natividad. Et il reprit sa litanie. « Les punchos rouges, les punchos rouges !» Mais qu'est-ce que les punchos rouges ?« Rouge ou gris ?» s'exclamait Raymond. « Ces punchs-là font partie de la bande de Huascar et on l'ont aidé dans son entreprise. Voilà qui me paraît plus clair encore que cette pluie tropicale. » « Oui, monsieur Ozu, je suis de votre avis maintenant, » reprenait Natividad essoufflé de suivre le jeune homme qui, sur son instigation, avait pris le chemin de la gare. « Vous aviez raison, ils en sont. Ils en sont. Ce sont eux qui ont enlevé la señorita de la Torre, les ponches rouges, les prêtres du soleil. » Raymond s'arrêta net dans sa course. Les derniers mots de Natividad lui avaient fait entrevoir avec épouvante le sort le plus horrible pour Marie-Thérèse. Et dans son affreux désarroi, ce furent les deux figures des deux vieilles, Agnès et Irène, qui lui apparurent. Elles avaient raison, mais que ne les avaient-ils cru au lieu de se moquer ? « Oh, la malheureuse !» gémit-il. Et il se mit à courir comme un fou. En courant, il criait au commissaire « Mais vous allez faire arrêter tous ces misérables, hein ? On va les coffrer, les châtier, on va la sauver. »« Nous ferons ce que nous pourrons. Ils ont bien une trentaine et nous ne disposons en ce moment d'aucune force à Callao. On a tout réquisitionné pour la lutte contre Garcia et les troupes sont dans la Sierra. Mais vous pouvez téléphoner à Lima. » Elle me prendra encore pour un fou, comme il y a 10 ans, répondit énigmatiquement Natividad. Enfin, serons-nous arrivés à Corillos avant eux? Certes, oui, il y a un train dans 10 minutes. Oh, vous auriez mieux fait de me procurer un cheval. Donnez-moi un cheval, dit Raymond, que je les suive, que je les rejoigne, que je sache au moins où ils vont. Je marcherai tout seul contre eux. « Non, 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 j'irai avec vous, je vous quitte pas. » Et poursuivant sa pensée, Natividad ajoutait pour lui-même, « Ils n'ont pas voulu me croire il y a 10 ans. Eh bien, ça recommence, ça recommence. » Mais Raymond ne l'écoutait pas. Il voulait agir, agir, et il craignait de perdre la piste en prenant le train. Il le dit au commissaire. « Mais la route qu'ils ont prise, » répondit Natividad, « suis la ligne du chemin de fer. Je m'entends avec le chef de train. Si nous apercevons une auto qui attend sur la route, nous faisons stopper. Si nous apercevons les ponches rouges, nous les dépassons et les attendons de pied ferme à Corillos, dont les autorités seront prévenues. Regardez perdu, monsieur Ozu. » Ils arrivèrent à la gare. Là, Natividad eut le temps de téléphoner à son commissariat auquel il donna l'ordre de se mettre en communication immédiate avec Horillos. La police de Horillos devait s'opposer par tous les moyens au passage d'une auto qui venait de Callao. Raymond et le commissaire s'entretenaient fiévreusement avec le chef de train sur le quai de la gare, quand ils virent descendre d'un train de Lima et accourir vers eux le marquis de la Torre et l'oncle François Gaspard et le petit Cristobal. Marie-Thérèse, où est Marie-Thérèse? S'écria le marquis du plus loin qu'il aperçut Raymond. Et il courut à lui. Mais pourquoi êtes-vous seul? Où est-elle? Mon Dieu, qu'est-il arrivé? Mais parlez! Le petit Cristobal était déjà pendu aux jambes de Raymond et demandait en pleurant des nouvelles de sa sœur. L'oncle Ozou était des plus agités et tournait autour du groupe avec ses longues jambes stupides. Le train siffla. Natividad se précipita à son tour sur Raymond et fit monter tout le monde dans le convoi qui déjà s'ébranlait. Raymond avait pu enfin jeter « Oui, les Indiens l'ont enlevée, mais nous savons où elle se trouve à Chorillos. » Ainsi, en quelques mots, lui annonçait-il le malheur en essayant d'en diminuer l'importance. Il dut parler et cependant s'expliquer. Le marquis jurait qu'il tuerait de sa main tous les Indiens qui choient. Le petit Cristobal sanglotait. Mais eux, comment étaient-ils là? Qui donc les avait prévenus? Qui les avait fait venir à Callao? Raymond apprit qu'à l'Angélus du soir, Agnès et Irène s'étaient aperçues qu'on avait volé le bracelet soleil d'or qu'elles avaient déposé au pied de la Vierge de San Domingo. Effrayées du sacrilège, elles étaient rentrées à l'hôtel, poussées par le plus sinistre pressentiment, ayant grande hâte de retrouver Marie-Thérèse pour lui conseiller de se tenir sur ses gardes. La première personne à laquelle elle s'était heurtée avait été justement le marquis, qui n'était pas moins effrayé qu'elle. Il accourait de son cercle où il n'avait pas mis les pieds depuis une semaine, passant son temps à faire visiter ses nécropoles à l'oncle Zou. Or là, il avait trouvé une lettre écrite dans le style de celle qui les avait fait fuir de Cajamarca et qui lui conseillait de veiller nuit et jour sur Marie-Thérèse pendant les fêtes de l'Interaimi et surtout de ne point laisser sa fille se rendre à Callao le prochain samedi. Or, le prochain samedi était celui-là, c'est-à-dire le jour même où il trouvait cette lettre qu'il attendait depuis le retour de Cajamarca. Et voilà qu'il était près de 7 heures du soir et que ni Marie-Thérèse ni Raymond n'étaient encore revenus de Callao. Il n'y avait pas hésité, il fallait courir là-bas. Les vieilles avaient voulu partir, elles aussi, tant elles pressentaient la catastrophe, et aussi la petite Isabelle, mais on laissa les femmes à la maison, et le marquis se jeta dans le premier train avec François Gaspard, suivi du petit Cristobal qu'aucun ordre, qu'aucune menace n'avait pu faire rester à Lima. Le récit simultané des tribulations de la famille de la Torre à Lima et celui de l'enlèvement de Marie-Thérèse à Callao se mêlait dans un éclat désespéré aux interjections des uns et des autres, aux malédictions du marquis, aux pleurs du petit Cristobal et aux soupirs effrayants de Raymond. Le jeune homme avait arraché sa cravate et son col car il étouffait. Qu'une chose pareille fût possible en pleine civilisation, dans un pays où l'on voyageait en chemin de fer, cela dépassait toute imagination. Car il ne s'agissait plus de l'entreprise audacieuse d'un misérable fou d'amour, non, non, on était bel et bien en face d'un enlèvement devant aboutir à un crime rituel. Le commissaire, qui avait fini par glisser son mot au milieu des gémissements et des explications, ne laissait à ce point de vue subsister aucun doute. Le plus extraordinaire était qu'il paraissait à la fois très peiné de l'événement, car c'était un brave homme, et cependant assez satisfait à part lui que cet événement eût pu se produire. car c'était un fonctionnaire dont on s'était beaucoup moqué et que l'administration centrale n'avait jamais pris au sérieux quand il avait envoyé des rapports sur certaines mœurs obscures des Indiens Quichua, sur le meurtre rituel des enfants et le sacrifice incaïque des femmes. On l'avait accusé de faire de la littérature. Et il en avait conçu une juste indignation. L'événement se chargeait de le venger. L'enlèvement d'une Péruvienne pendant les fêtes de l'Interaimi, et dans quelles circonstances, avec tout le cortège des ponches rouges, avait-on assez ri en haut lieu de ces ponches rouges? Eh bien, on les voyait à l'œuvre maintenant. Tous l'écoutaient en silence et avec désespoir. Voyant cette douleur, Natividad s'efforça de rassurer son monde. Les Indiens ne pouvaient aller bien loin avec leurs précieux fardeaux. Tous les défilés de la Sierra étaient occupés par les troupes de Ventimiglia et il serait toujours facile de trouver auprès d'elle le renfort nécessaire dès que la bande des fanatiques aurait quitté la Costa. Le principal était de ne point perdre la piste. Justement, dans le moment, le train venait de rejoindre la route parallèle à la côte et les yeux des voyageurs ne quittèrent plus cette large bande blanche et déserte sous la lune. Quelques cabanes en torchis, quelques maisons en bambou furent dépassées encore, puis ce fut la nudité de la plaine sablonneuse. Penchés aux portières, le marquis, Raymond et le commissaire essayèrent d'apercevoir quelque chose. François Gaspard avait dû prendre le petit Cristobal dans ses bras pour que lui aussi pût voir. Le malheureux enfant gémissait à tout instant. « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, ma grande petite sœur, pourquoi on me l'a prise, ma petite grande sœur ?» Le marquis et Raymond ne pouvaient retenir leurs larmes en l'entendant. Tout à coup, tous furent debout. « L'auto !» Ce fut un cri unique qui leur échappa. Ils venaient d'apercevoir l'auto. L'auto sur la route arrêtée devant la porte d'une hacienda. Le commissaire avait déjà bondi sur le signal d'alarme. Et le train stoppa. Le chef de train courut. Nos voyageurs étaient déjà descendus sur la voie. Le commissaire lui cria d'envoyer vers eux, de Corrilos, le plus tôt possible, de la police, des soldats, surtout des chevaux, enfin le secours qu'il pouvait trouver. Le convoi se remit en marche. Raymond courait comme un fou à travers la plaine, n'écoutant point les objurgations du commissaire, qui lui recommandait la prudence et le suppliait de ne pas donner l'éveil. Il arriva le premier à la route et fut à bout de souffle près de l'auto. Il tenait un revolver à la main, prêt à casser la figure du premier Indien qui se présenterait. Mais il ne vit personne. Il n'y avait personne dans l'auto ni autour de l'auto. Elle paraissait là, abandonnée sur cette route déserte, au coin de cette hacienda mystérieuse, dont les murs d'ombre ne s'éclairaient de ci de là que les rayons blêmes de la lune. On l'assassine, on l'assassine. La porte de l'hacienda était ouverte. Raymond s'avança sous la voûte. Tout paraissait abandonné. Pas une âme dans la grande cour entourée de bâtiments dont quelques-uns apparaissaient en ruine. C'était là tout au plus une iguela ou plutôt une cara, c'est-à-dire une toute petite hacienda dont les propriétaires devaient cultiver les plantes maraîchères qu'ils allaient vendre à la ville. Raymond avait à sa droite le bodega ou dépôt pour les marchandises et les outils agricoles et à sa gauche la casa ou maison qui devait servir d'habitation aux propriétaires. Là encore, toutes les portes étaient ouvertes. Raymond fut rejoint par le commissaire et le marquis dans le moment qu'il retournait à l'hôtel dont il prit une lanterne qu'il alluma. Tous observaient le plus grand silence. Il n'y avait pas le moindre bruit dans la plaine. Mais ils entrèrent dans la casa. Ils n'avaient pas plutôt pénétré dans la première place qu'ils furent saisis par l'odeur singulière, par le parfum lourd, âcre et entêtant qui y régnait. Ils firent prudemment quelques pas et tout à coup poussèrent des cris d'horreur. Les meubles renversés gisaient là dans le plus grand désordre. Raymond avait glissé dans une flaque de sang. Du sang, il y en avait partout. Raymond et le marquis, tremblant d'une atroce angoisse, appelèrent désespérément « Marie-Thérèse ! Marie-Thérèse !» Et ils se turent soudain, car ils eurent en même temps la sensation qu'on leur avait répondu. « Mon Dieu ! S'écria le jeune homme, « on l'assassine ! On l'assassine !» Et il bondit vers un escalier qui grimpait au premier étage, d'où venait distinctement pour tous, maintenant, une plainte prolongée. Et le jeune homme, encore glissa, dut se retenir aux marches d'une main qui essuya quelque chose de chaud. Il regarda cette main avec épouvante, elle était rouge, du sang. Ils avaient désiré une piste, ils en avaient une, et qui ne pouvait tromper. La piste conduisait à la plainte, au gémissement d'agonie qui perçait les murs et les planchers, qui résonnait maintenant lugubrement dans toute la hacienda. Ainsi, ils se ruèrent à travers deux chambres où il y avait eu poursuite, où l'on s'était battu, défendu. Marie-Thérèse, Marie-Thérèse ! Un palier, une porte, un cabinet noir, et la plainte dans le cabinet noir. Et un corps mourant contre lequel ils trébuchent, près duquel ils se jettent à genoux, qu'ils enlacent, dont ils redressent le buste, qui râle « Libertad !» Ce n'est que Libertad qui meurt. Et ils sont tous là, maintenant, à remercier le ciel, parce que ce n'est que Libertad qui meurt. Le malheureux boy est criblé de coups de couteau. Il a été frappé à la poitrine, dans le dos, visage partout. Il râle, il demande de l'air. On le traîne à une fenêtre. On le confesse et on apprend qu'il expie son crime. Mais Raymond ne l'écoute que pour savoir où est Marie-Thérèse. Et dès que le geste de Libertad a montré la lointaine Sierra, le chemin qui monte de la route vers la montagne, il redescend comme un fou, car il a compris que les prêtres rouges sont déjà loin d'ici avec sa fiancée. Sur la route, il trouve l'oncle Zou, qui essaie vainement de faire entendre des paroles consolatrices au petit Cristobal, lequel est monté dans l'auto, y a trouvé le manteau de sa sœur et fait retentir toute la costa de ses pleurs et de ses appels déchirants. « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse !» Le petit se jette dans les bras de Raymond, sanglote. « Ils l'ont emporté, les méchants !» Mais il est si rudement rejeté sur la route par le jeune homme éperdu, qui demande à tous les échos « Un cheval !» qu'il comprend tout à coup qu'il n'y a plus place ici pour ses pleurs d'enfant. Ah, un cheval, une mule, mais quelque chose pour la poursuite. Et cette veine, cette stupide auto qui est là, et qui, après avoir servi à l'enlèvement, ne peut plus servir à rien, dans ces chemins de montagne où les prêtres rouges se sont enfuis avec leur proie. Mais le petit, tout à coup, a donné l'éveil. Il lui a semblé entendre là-bas, derrière la bodega, au fond de la cour, comme un bruit de sabots contre des planches, et aussi un hennissement. Se tromperait-il? N'y aurait-il pas des bêtes là-bas, au fond d'une écurie? Il court. Oh, ce sont des lamas, trois pauvres lamas efflanqués, là d'avoir porté de trop longues années de trop lourds fardeaux, et qui serait incapable maintenant de porter même cet enfant. Cependant, un lama ne hennit pas, et le petit Cristobal a bien entendu hennir tout à l'heure. Il fait le tour de la bâtisse, et tout à coup se colle contre le mur. Un cavalier est là, qui se dresse au milieu de la plaine, immobile comme s'il surveillait l'hacienda. Et près de lui, dans la même immobilité attentive, une bête légère, fine, aux jarrets de chèvre, au long cou, aux oreilles dressées en éveil, un lama de la cordillère qui doit suivre son cavalier comme un chien suit son maître. Un cheval et un lama, oh, le petit Cristobal n'en respire plus. Oui, mais il y a un cavalier de trop. Dans le moment qu'il se fait cette réflexion, le cheval fait tout à coup un écart considérable, le cavalier pousse un juron et un coup de feu retentit. Une ombre qui semble surgir de terre et qui s'était glissée sournoisement à quelques pas de là vient de décharger l'éclair de son arme. Le cavalier étend les bras et tombe, roule dans le sable, cependant que l'ombre a déjà sauté à la bride puis bondit en selle. Le petit Cristobal est accouru. « Tu diras à ton père que j'en ai trouvé un, démoli un, et que j'ai un cheval !» lui crie Raymond, qui a fait ce beau coup. Et il lance sa monture sur le chemin de la Sierra. Mais l'enfant ne lui répond pas. Il court de toutes ses petites jambes derrière le lama, qui court, lui, derrière le cheval. Il lui agrippe la laine et il lui parle comme il faut parler au lama. Et il saute dessus et il l'enfourche de ses petites cuisses nerveuses. Et voilà que les deux cavaliers passent comme des flèches devant l'oncle Ozou, qui lève vers la nuit bleue ses deux longs bras déjà gandés, avec lesquels il semble mesurer tout le désespoir du monde. Pendant ce temps, au premier étage, Libertad achevait sa sinistre et précieuse confession. Le commissaire a retenu le marquis en lui faisant entendre de quelle importance pouvaient être les derniers propos du misérable boy et de quelle inutilité serait la présence de Cristobal sur une route où il ne pourrait rien faire tant qu'on ne leur aurait pas amené de chevaux. Natividad attendait des secours après ses deux coups de téléphone, soit de Callao, soit de Corilos. Il pensait qu'on ne tarderait pas à venir. Il pensait surtout qu'il était fort heureux d'avoir un témoin comme le marquis pour recueillir avec lui une déposition qui allait lui donner raison quant à tous les crimes obscurs des Indiens. Et il tourmenta Libertad jusqu'à son dernier soupir. De cette déposition hachée, coupée par la douleur, suspendue par les râles et arrêtée par la mort, il ressortit, plus clair que cette merveilleuse nuit tropicale, que l'affaire avait été préparée de longue main et qu'il y avait au moins 2 mois que la fille du marquis de la Torre avait été choisie comme la future victime de l'Interaimi. C'est à cette date qu'on avait commencé à tâter la fidélité du boy, qui n'avait pas longtemps résisté à une offre pécuniaire assez sérieuse. On ne lui avait demandé qu'une chose, c'était d'être prêt, certains soirs, à conduire lui-même l'auto où on lui dirait, et sans qu'il se préoccupât de ce qui se passerait derrière lui, et il avait consenti à tout, moyennant 200 sols d'argent, dont 50 lui avaient été comptés tout de suite. « Et avec qui avais-tu passé ce traité ?» demanda le commissaire. « Avec le commis de la banque franco-belge, qui venait quelquefois au magasin, et qui s'appelle Oviedo. » Le marquis bondit. « Oviedo ou Aina Kuntu ?» L'homme qui ne les avait pas quittés lors du voyage de Caramarca. L'Indien qui se faisait habiller chez Zarate. celui qui les avait suivis pas à pas depuis leur départ de Lima. Si ce misérable avait préparé à Callao l'enlèvement de Marie-Thérèse, il avait dû en effet voir avec regret le départ de la jeune fille pour Calamarca. Ainsi s'expliquaient ses soins assidus, et aussi la démarche faite auprès du maître de police de Calamarca pour qu'il fît comprendre aux voyageurs le danger qu'ils couraient et la nécessité pour eux de redescendre au plus vite à Lima et à Callao. Peut-être même était-ce lui qui avait fait envoyer à l'auberge cet avis anonyme qui, sous les apparences de l'intérêt et de la pitié, devait rejeter plus vite la pauvre Marie-Thérèse dans le piège qui lui avait été tendu. Et quand as-tu été averti du jour et de l'heure de l'affaire ? Demanda encore le commissaire au malheureux dont il fallait soulever de plus en plus le buste, car par instant il étouffait.
Tantôt, Oviedo est venu me trouver et m'a dit « C'est pour aujourd'hui. Quelqu'un viendra te dire « Dios ad kiturata » le bonjour en langue aymara. Aussitôt, tu monteras sur ta machine et tu ne tourneras pas la tête quoi qu'il arrive. On te dira où il faut aller, pas où il faut passer et tu t'arrêteras pas avant qu'on te le dise. » Sous peine de mort.
Libertad retrace en quelques phrases, dont quelques-unes restent inachevées, le rapide drame. Il était un peu plus de 6h30 quand le boy se sentit touché au bras dans la rue et aussitôt il entendit le « Dios adicturata » prononcé par un être dont l'aspect le fit tout d'abord reculer. Il l'avait jusqu'alors vu de pareilles têtes que dans les panthéons, les cimetières, un caïque, et n'avait pas été éloigné de croire à quelque spectre. Toutefois, il se ressaisit, monta sur sa machine, et persuadé qu'il y a là de sa vie, attendit des ordres. Il eut beau ne point tourner la tête, il lui fallut bien entendre le jeu qui se jouait à la fenêtre, et il avait compris que derrière lui, on enlevait la fille du marquis de la Torre. À ce moment, il regretta ce qu'il avait fait, mais il était trop tard pour reculer. Sur l'ordre qui lui en fut donné, il descendit vers la Muselle d'Arsena par la rue San Lorenzo. Dans la rue San Lorenzo, on le fit arrêter une seconde devant une porte basse, d'où sortit un Indien qu'il avait reconnu immédiatement, c'était Huascar. Huascar s'était avancé jusqu'à l'auto, avait jeté un coup d'œil à l'intérieur, puis il avait dit en quichua « C'est bien, à tout à l'heure !» Et il avait donné l'ordre à Libertad de repartir sur la route de Corilos et de s'arrêter seulement à l'Hacienda d'Ondegardo, qu'il connaissait bien pour s'y être apprisonné plusieurs fois d'eau de vie de maïs. Il y était parvenu à toute allure. Dans la voiture, derrière lui, on n'entendait rien. La señorita était-elle morte? On aurait pu le croire. Pas un mot, pas un soupir, rien. Ayant stoppé devant la porte de l'hacienda, il constata que la porte était ouverte et que l'hacienda paraissait vide de ses habitants. Il se retourna alors instinctivement et il vit trois gnomes extraordinaires dont les têtes abominables sortaient l'une haute comme un pain de sucre, l'autre carrée, l'autre oblongue du trou du ponche rouge. Et ils étaient en train de descendre avec de grandes précautions le corps de la señorita, qu'il avait bien reconnu sous le voile safran dont elle était couverte. Elle paraissait dormir. Ils la transportèrent dans la casa, et lui, Libertad, attendit sur son siège, ne pensant plus qu'à se faire payer, à reconduire l'auto à Callao, à se sauver dans la sierra et à sortir au plus tôt de cette affreuse histoire. Sur ces entrefaites, le métis avait entendu derrière lui le galop d'une troupe de cavaliers
et presque aussitôt il avait été entouré par une trentaine d'hommes qui tous avaient revêtu le punch rouge. Ils étaient conduits par Oviedo lui-même et par Huascar, qui avait ordonné à Libertad de pénétrer avec lui dans la casa. Libertad n'avait pas été peu étonné, en entrant dans la première pièce, d'y trouver une demi-douzaine de femmes entièrement voilées de noir et ne laissant voir sous le haïc de deuil que leurs yeux, et se tenant debout devant la porte d'une autre salle dans laquelle on avait certainement transporté la fille du marquis de la Torre. « Les mamaconas !» s'était écrié à cet endroit de la confession du boy. Le commissaire, qui suait à grosses gouttes du travail qu'il se donnait pour arracher les derniers lambeaux de sa déposition à Libertad. « Les mamaconas ! Nous avons maintenant à qui nous avons affaire. » « et après, achève avant de mourir, malheureux, et Dieu te pardonnera. » « Oui, les mamaconas, c'étaient les mamaconas. Mais Dieu aura pitié, gémit l'agonisant. « Je ne savais pas qu'on voulait enlever votre fille, monsieur le marquis. Mais elle n'est pas perdue, non, Dieu ne voudra pas, seigneur. Vous la sauverez avant l'abominable sacrifice. Oui, oui, j'ai tout appris ici. » Des poches rouges qui ne savaient pas que je parlais l'aïmara. Alors ils ne se sont pas gênés devant moi. Ils disaient qu'Atahualpa allait avoir une belle épouse et que le soleil et les fils du soleil pouvaient se réjouir. Et ils se prosternèrent tous quand elle vint à passer.